L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus, c'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager Joseph en Égypte, c'est notre 7e émission. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter encore une fois à baisser la tête dans la prière, à baisser toujours la tête dans la prière, quelques instants, pour dédier le reste des 30 minutes. Priez avec moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous venons devant toi pour te dire merci pour le salut que tu nous as donné en Jésus-Christ. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour cette opportunité que tu nous donnes d'entendre ta parole. Seigneur, aide-nous à devenir meilleurs et non pas pires. Aide-nous à devenir des Joseph des temps de la fin, Seigneur. Car si tu permets cet enseignement, c'est pour que nous soyons améliorés. Si tu permets que nous écoutions cet enseignement, c'est pour que tu fasses du bien à notre nation au travers de nous, les Joseph des temps de la fin. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Joseph en Égypte. Genèse 39. De 1 à 6. Genèse 39, de 1 à 6. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Je tiens à insister. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Vous vous êtes peut-être posé la question, pourquoi est-ce que le verset 6 parle du fait que Potiphar avait tout donné entre les mains, avait tout laissé entre les mains de Joseph, mais sauf la nourriture. C'est parce que les Égyptiens ne mangeaient pas, avaient une certaine catégorie de nourriture. Nous le verrons au fur des émissions. Donc, Potiphar faisait attention à ce que Joseph lui apportait comme nourriture parce qu'il ne pouvait pas manger n'importe quoi. Il avait un régime alimentaire propre aux Égyptiens qui était différent des Hébreux. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes au fait que Joseph vient d'être vendu à Potiphar et Joseph a aux alentours de 17 ans. C'est un adolescent, vous voyez. Je suis toujours en train de m'imaginer que le jeune Joseph devait se dire « J'ai plus d'espoir ». Il pouvait se dire cela « Je n'ai plus d'espoir ». Il pouvait par moments la nuit réfléchir et se dire « Mais est-ce que le rêve que j'avais fait, les rêves que j'avais fait il y a quelque temps en arrière, est-ce que ce n'était pas le fruit de mon imagination? Est-ce que Dieu m'avait réellement parlé? Certainement quand il réfléchissait, il arrivait aussi à la conclusion, oui, Dieu m'avait parlé. Mais comment est-ce que ces songes que j'ai eus vont se réaliser? Comment est-ce que Dieu va m'élever au-dessus de mes frères, au-dessus de ma mère, au-dessus de mon père? Comment est-ce que je vais devenir le numéro un de la famille du point de vue social? Alors que je suis un esclave n'a pas de droit, un esclave n'a pas de choix, un esclave sort de l'esclavagisme par la mort ou par l'affranchissement de quelqu'un. Mais qui allait acheter Joseph? Qui allait rendre la liberté à Joseph vu qu'il est vendu chez des Égyptiens, des étrangers, qui ne connaissent même pas son père, qui ne connaissent même pas sa mère, qui ne connaissent même pas d'où ils viennent. L'essentiel est que c'est un gars qui est instruit, un gars qui est intelligent, un gars qui est beau, présentable, et il va rapporter de l'argent à celui qui va le vendre. C'est tout ce que les Égyptiens connaissent de ce gars. Alors ils se posent des questions. Comment je vais faire? Mais voilà que Joseph est vendu à Potiphar, chef de la sécurité du roi d'Égypte. Vous voyez? Et à cette époque-là, c'était des hommes extrêmement, je dis bien extrêmement, je répète encore, extrêmement puissants et riches. Donc, pour par exemple affranchir Joseph de la main de Potiphar, il faut carrément être le pharaon lui-même. Donc, Joseph n'avait plus d'espoir, si je puis dire, socialement parlant. Mais il gardait confiance au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il gardait confiance. Et lorsque Joseph a commencé à travailler, Joseph ne s'est pas comporté de n'importe quelle manière. Joseph n'a pas fait n'importe quoi. Joseph ne s'habillait pas de n'importe quelle manière sous prétexte que, bon, écoutez, soyons modernes, adaptons-nous à la société à laquelle on nous a vendus. Adaptons, Paul dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Paul s'adresse à des chrétiens. Il leur dit, il vous dit, il me dit, bien des siècles après qu'il ait existé, nous ne nous conformons pas au siècle présent. Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, ne nous mélangeons pas à leur mode de vie. Aujourd'hui, on prétend que les chrétiens, on a des pays dits chrétiens, tels que la République démocratique du Congo. 95% des Congolais se disent chrétiens, vont à l'église. La Bible est vendue comme c'est pas possible. Nous avons des campagnes d'évangélisation. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, nous avons en moyenne au moins une église par avenue. Mais pourtant, le Congo est le pays le plus pauvre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris que nous sommes des Joseph des temps de la fin. Joseph dans la maison de Potiphar n'a pas fait n'importe quoi. Vous savez, l'Égypte, c'est l'image du monde. Potiphar, c'est l'image de notre employeur qui n'est pas chrétien. Vous voyez, il n'est pas chrétien, le monde ne s'est pas converti à Christ, le monde ne se convertira jamais à Christ, le monde fera ce qu'il a envie de faire, il sera en rébellion perpétuelle contre Dieu. Potiphar aussi pas forcément, Potiphar aussi ne se convertira peut-être pas à Christ. Mais qu'il se convertisse ou qu'il se convertisse pas, nous les Joseph des temps de la fin, nous ne devons pas nous comporter de n'importe quelle manière. Que l'on soit en Afrique, que l'on soit en Europe, que l'on soit en Asie, en Amérique latine ou du Nord ou du Centre, je ne sais pas d'où vous êtes, ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel est que vous compreniez que vous ne devez pas vous comporter de n'importe quelle manière. Joseph était un homme qui respectait son patron, qui respectait son maître. Son maître lui disait « fais A, il le faisait, fais B, il le faisait ». Bien sûr, nous devons rester dans les normes de la parole de Dieu, ne pas aller au-delà. Lisons un peu Tite 2, revenons à Tite parce que nous l'avons lu l'émission précédente. C'est parmi les derniers, c'était le dernier verset, la dernière référence que nous avons lue avant de clôturer l'émission. Tite 2, 9 à 10. Paul recommande ceci. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à ne être point contredisant. Vous écoutez, Paul, ou mieux, le Saint-Esprit, vous recommande, et à vous et à moi, d'être soumis à nos chefs en toutes choses, à leur plaire, et à ne pas passer notre temps à les contredire devant tout le monde. Ne pas passer notre temps à faire des choses contraires à ce qu'ils demandent, à ce qu'ils demandent de faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des types de chrétiens qui sont des rebelles. Ils n'aiment pas arriver à l'heure au travail. Ils n'aiment pas finir leurs tâches. Ils n'aiment pas qu'il y ait des gens au-dessus d'eux. J'ai vu ça de mes propres yeux. J'ai vécu cela. Nous sommes entrés avec un groupe d'agents au même moment dans une société. Je préfère taire le nom pour ne pas faire la publicité. Et Dieu a fait grâce que moi, je sois élevé au-dessus de ces hommes. Eh ben, c'était un problème particulièrement pour un agent. Il n'appréciait pas ça du tout. Il me critiquait à tout vent, à qui voulait entendre. Il racontait n'importe quoi. Et c'était un chrétien. Et c'est un chrétien. C'était un serviteur de Dieu. Mais dès que je lui demandais de faire quelque chose, c'était un problème. Mon frère, ma sœur, nous ne devons pas être ainsi. Nous devons nous arranger pour servir nos chefs, qu'ils soient en Christ ou pas en Christ, mais nous devons leur servir comme si nous servions Dieu lui-même. On nous demande un rapport à temps, nous le faisons à temps. On demande d'être là à 8 heures, parce que le travail commence à 8 heures, et bien nous devons être là à 8 heures. Pas tous les jours, pas 3 à 4 jours sur 5, nous arrivons à 9h30. Et nous donnons toujours de bonnes explications. Toujours, il y a toujours des explications. Et vous savez quoi? Nous arrivons à 9h30, le travail se termine à 5h, 5h30 de l'après-midi. Nous partons déjà vers 4h, 4h30. Nous sommes tout le temps dans des appels privés, nous sommes tout le temps en pause. Bref, nous sommes en train de voler notre patron. Paul continue. Verset 10. À ne rien dérober, rien voler à notre patron. Le temps de travail. On vole des fois du temps de travail à notre patron. Des temps de communication. Nous sommes constamment sur Facebook, sur Twitter, sur Google, en train de... Nous sommes sur Internet pendant les heures de travail au lieu de travailler. Bien sûr, si notre travail nécessite l'Internet, il n'y a pas de problème. Mais certains, au lieu de travailler, ils se servent des outils de l'entreprise à des fins privées et ils en abusent. C'est là le vol. C'est là le vol. Des fois même, ce sont les véhicules. J'ai même, il y a quelques années en arrière, il y a même un ami qui un jour m'a appelé pour demander ce conseil. Il devait acheter des outils pour l'entreprise, du matériel pour l'entreprise. Mais arrivé là-bas, on lui proposait une très forte réduction sur l'ensemble des achats qu'il avait fait. Alors le vendeur lui proposait de lui faire une autre facture au prix qu'il était censé acheter. Mais on lui fait quand même une réduction. Alors il m'a appelé, il m'a dit, est-ce que je dois accepter cette proposition du vendeur? Moi je lui ai dit non. Qu'il te fasse une réduction, et qu'il te fasse la facture avec la réduction et l'argent, tu le ramènes chez ton employeur, dans la caisse de l'employeur. Alors, je ne savais pas qu'après moi, il avait encore demandé des conseils à d'autres personnes. Le soir, quand je suis allé le voir, on en discutait. Et il y avait un pasteur qui était là, qui lui disait non. Il lui disait, tu as été stupide, Eric. Tu as été stupide, tu n'as pas été intelligent. Parce que Eric, mon ami, avait suivi le conseil que je lui avais donné. Il dit, tu n'as pas été intelligent. Moi, si on me demande d'aller acheter du carburant, on me dit que que 10 litres, par exemple, ça coûte 100 dollars. C'est juste un exemple. Et qu'on me propose toujours 10 litres à 75 dollars, mais je vais les prendre à 75 dollars, les 25 dollars c'est pour moi. C'est du vol mon frère, c'est du vol ma sœur. Parce que ce n'est pas notre argent. C'est l'argent qui nous a été confié. Nous avons été des serviteurs pour faire des achats. Un point à trait, que l'on achète à 100 dollars ou à 25 dollars, nous devons rendre compte de combien nous avons exactement dépensé. C'est du vol. Et Paul nous recommande de ne pas être à ne rien dérober. Nous ne devons rien voler. Joseph était ce style de personne. Il ne volait pas son maître. Voilà pourquoi Dieu était constamment en train de le bénir. Je tiens à insister, je tiens à souligner, je tiens à le marteler. Joseph n'est pas devenu le grand Joseph de la Bible parce qu'il était fils d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non! Sinon, ça aurait pu être Judas. Sinon, ça aurait pu être Éphraïm. Sinon, ça aurait pu être l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs. Non! C'est parce qu'il a marché dans l'intégrité, c'est parce qu'il a marché dans la crainte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Lisez un peu dans Genèse 17. Bon, c'est vrai que j'ai pas fini deux titres, mais allons quand même à Genèse 17. J'aime cela. Genèse 17. C'est une parole que Dieu s'adresse, que Dieu adresse à Abraham, qui est venu. Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Vous voyez? Certainement que Joseph se souvenait de ses promesses qui avaient été faites, c'est de ses commandements qui avaient été donnés à son grand-père. Verset 2, « J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Marche devant moi et sois intègre, même si 98% des livres de la Bible n'existaient pas au moment où Joseph existait, où Joseph vivait ces choses. Du chapitre 1 au chapitre 38, ça existait déjà. Joseph avait déjà entendu parler de cela, des remarques et des corrections que Dieu portait dans la vie d'Abraham. Ne marche pas de n'importe quelle manière. Marche devant moi. Sois un homme intègre. Qu'on ne retrouve pas chez toi la moindre faute. Où sont les hommes intègres aujourd'hui? Où sont les Joseph qui sont intègres? Aujourd'hui, on parle prospérité. C'est une très bonne chose. On parle réussite. C'est une très bonne chose. On parle percée. C'est une très bonne chose. On parle restauration. C'est une très bonne chose. On parle d'années d'accomplissement, d'années de restauration, d'années de succès, de percée, d'élévation, de gloire divine. C'est une très bonne chose. Je dis Alléluia, mon frère. Je dis Alléluia, ma sœur. Mais où sont les hommes intègres qui vont vivre ces choses? Parce que ces choses-là sont réservées en Dieu. Abraham n'est pas devenu Abraham parce que Dieu a décidé que ce serait Abraham. Non. Non. Abraham a marché par la foi. Abraham était un homme de foi, était un homme de principe, était un homme d'intégrité. Dieu n'élève pas le pécheur. Dieu n'élève pas parmi ses enfants des hommes et des femmes qui vivent dans le péché, dans la magouille, dans le mensonge, dans la tromperie, dans la duplicité, dans la pornographie, dans l'adultère, dans la fornication, dans le meurtre, dans l'homosexualité. Non, 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 mon frère, non, ma sœur. Si vous choisissez ce style de vie, vous êtes libre. Mais ne vous attendez pas à ce que Dieu vous élève comme Dieu a élevé Joseph. Ne vous attendez pas à ce que Dieu fasse des miracles ou des grandes choses dans votre vie comme Dieu a fait pour Joseph. Il y a des principes à respecter. Abraham était un homme intègre qui marchait devant Dieu. Il marchait continuellement devant Dieu. Bien sûr, ce n'était pas un homme parfait. Bien sûr, c'était pas un homme sans faute, mais c'était pas quelqu'un qui se plaisait à vivre dans le péché. Or aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons des pasteurs qui sont des menteurs, nous avons des pasteurs qui sont des adultères, nous avons des pasteurs qui sont des fornicateurs, nous avons des pasteurs qui sont des escrocs. Alors, si on retrouve déjà cela dans l'Église parmi les hommes de Dieu, qu'est-ce qu'on va retrouver parmi le peuple de Dieu, si je puis dire, parmi les laïcs dans l'Église de Jésus-Christ? Joseph était seul, rappelons-nous, Joseph était seul, seul en Égypte, qui connaissait et qui craignait le seul et l'unique vrai Dieu. Mais Joseph n'a rien volé à Potiphar. À ne rien, revenons à Tite 2, verset 10, à ne rien dérober, à ne point mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Vous voyez, je vous ai parlé de l'histoire d'un homme qui était évangélisé par un pasteur. Cet homme qui était très riche dira à ce pasteur, « Vous savez, dans ma maison, celui qui me prêche et celui qui me vole sont la même personne. » Des contre-témoignages. Non, mon frère, non. Il ne doit pas en être ainsi. Vous imaginez, vous dites à Potiphar, que tous ces dieux sont des petits dieux, sont des faux dieux, sont des idolâtries, sont des trucs de démons, et que ces choses vont lui emmener en enfer. Mais vous êtes le même qui, avec des gestes, vous volez de l'argent à Potiphar. Mais vous voulez qu'il se convertisse, qu'il vienne au vrai, au véritable et à l'unique vrai Dieu Jésus-Christ. Vous dites que ce Jésus-Christ est capable de faire de grandes choses dans la vie des hommes, est capable de bénir, est capable de faire prospérer, mais vous êtes ce Joseph qui allait voler dans la maison de Potiphar. Ça n'a pas de sens. Nous ne devons pas être ce type de Joseph. Nous devons être le Joseph de la Bible. Ce Joseph modèle de la Bible sur qui Potiphar a vu la main de Dieu, a vu la puissance de Dieu, a vu la grâce de Dieu, et Potiphar l'a élevé. Ne soyons pas des contre-témoignages. Nous disons aux hommes, venez à Christ, mais nous-mêmes, nous ne marchons pas avec Christ. Ça n'a pas de sens. C'est ça qui détruit la société d'aujourd'hui, et plus particulièrement la République démocratique du Congo. Nous allons tous à l'église. Nous parlons tous de Jésus. Mais tous, nous ne vivons pas Jésus dans notre vie de tous les jours. Des pasteurs sont en train de se disputer la direction de l'église, alors qu'ils sont en train de prêcher que en Jésus-Christ, nous sommes la tête et non la queue, nous ne serons jamais les derniers. Jésus-Christ est capable de restaurer des choses détruites. Mais nous sommes prêts à tuer, nous sommes prêts à mentir, nous sommes prêts à voler pour avoir les meilleures positions sociales possibles. Ce sont des contre-témoignages. Nous disons à Potiphar, abandonne les dieux de l'Égypte, abandonne les images taillées, abandonne, viens à Jésus-Christ, mais nous sommes les mêmes qui allons encore le supplier. Potiphar, s'il te plaît, donne-moi de l'argent pour l'évangélisation, donne-moi l'argent pour l'église, donne-moi... Mais attends, comment Potiphar va se convertir si toi qui prêches le vrai Dieu, l'unique vrai Dieu, tu vas encore le supplier lui pour qu'il te donne de l'argent? Non, mon frère, non, ma sœur. Joseph était un roi, nous avons dit ça dans les émissions précédentes. Joseph était un roi, c'était un oint de Dieu, c'était quelqu'un qui avait été choisi par Dieu. Et il avait confiance que les songes que Dieu lui avait montrés allaient s'accomplir dans sa vie. Joseph n'a pas fait de courbette devant Potiphar, il le respectait, il l'honorait. Il était respectueux, mais il n'était pas, le petit chien-chien de Potiphar. Il passait pas son temps à aller calomnier, il faisait plus les mêmes erreurs qu'il faisait dans la maison de son père. Il passait pas son temps à aller calomnier ses collègues chez Potiphar, juste pour montrer à Potiphar que lui, il aimait Potiphar, qu'il était du côté de Potiphar. Non, Joseph était un homme intègre, Et un homme intègre dit la vérité. Un homme intègre marche dans la justice. Un homme intègre marche dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne s'habille pas de n'importe quelle manière. Il ne voit pas son intérêt personnel. Il voit d'abord l'intérêt des autres. Il est obéissant. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à ne rien dérober. Mais à montrer toujours une parfaite fidélité, vous voyez. Une parfaite fidélité. Un homme intègre est un homme qui est fidèle. Nous devons être fidèles. Fidèles dans nos tâches. J'allais dire fidèles à notre épouse. Fidèles à notre époux. Fidèles à la parole qu'on a donnée. Combien d'hommes et de femmes, ils vous disent une chose. Et puis quand vous revenez 2-3 jours après, vous dites, mais vous m'aviez promis telle chose. Moi, je vous avais dit ça? Oh, excusez-moi, j'avais dit ça en l'air. Non, on ne doit pas en être ainsi. Lorsqu'on promet une chose, on doit l'accomplir. Lorsqu'on promet une chose, on doit le réaliser. Oh, mon frère, oh, ma sœur, où sont les Joseph des temps de la fin aujourd'hui? Dans le gouvernement, où sont les Joseph? Dans les églises, où sont les Joseph? Dans le monde des affaires, où sont les Joseph? Aujourd'hui, on n'a plus confiance aux chrétiens. Parce que tout le monde se revendique être chrétien. Aujourd'hui, on n'a plus confiance aux hommes de Dieu. Parce qu'on en a abusé, on a fait des horreurs, des choses horribles au nom de Dieu, nous les hommes de Dieu. C'est honteux aujourd'hui de dire qu'on est pasteur, qu'on est évangéliste, qu'on est docteur, qu'on est apôtre, qu'on est prophète. C'est honteux aujourd'hui. Parce que nous avons menti, troublé les couples, les familles au nom de Dieu. Revenons à la Bible. Revenons auprès du Seigneur et demandons pardon. Marchons dans l'intégrité, marchons dans la justice, marchons dans la crainte de Dieu. Que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans nos familles, il faut que nos femmes, nos épouses, nos enfants, nous admirent, nous respectent parce que nous sommes des hommes qui marchons dans l'intégrité, dans la justice et dans la crainte du nom de l'Éternel. Pas que non, les enfants disent de nous, que les femmes, que nos femmes disent de nous, oh, nous sommes, oui, c'est un pasteur, oui, mais il faut voir ce qu'il me fait à la maison. Il me bat, il me ment, il me trompe, il me cache son argent, il m'insulte tout le temps, il me rabaisse tout le temps. Je n'ai aucune espèce de valeur à ses yeux. Non, mon frère, non, ma sœur. Revenons à Jésus-Christ et demandons pardon. Le monde d'aujourd'hui doit se convertir et abandonner le péché. Oh, mon frère, vous vous dites chrétien, mais quel type de saveur répandez-vous au milieu de ceux ou celles avec qui vous vivez? Quel type de lumière aujourd'hui? J'allais dire, aujourd'hui les lumières des chrétiens ne sont plus influentes du tout. Elles n'éclairent plus personne. Des injustices sont faites dans le monde et les chrétiens sont là à regarder. Aujourd'hui, on est chrétien, patron d'entreprise, mais on dirige l'entreprise comme si on était un païen. Non, mon frère, non, ma sœur, ces choses doivent changer. Si ce message vous a touché, si ce message vous concerne et vous voulez dire, frère, ce que vous avez dit dans ce message est vrai pour ma personne et je voudrais demander pardon à Jésus-Christ. C'est très simple. Baissez la tête dans la prière et répétez ces simples mots après moi. Dites, Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je viens devant toi. J'ai entendu ton message. J'ai entendu ton appel. Et je viens demander pardon. Pardon parce que je n'ai pas marché comme un chrétien. Pardon parce que j'ai marché comme le monde voudrait que je marche. Je te demande pardon, Père, pour mes péchés, pour ma rébellion, pour mes fautes. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ. Lave-moi avec le sang de Jésus-Christ. Je prends l'engagement, aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie, à suivre Jésus-Christ tous les jours de ma vie et dans tous les domaines de ma vie. Je prends l'engagement aujourd'hui de refléter Christ dans ma vie de tous les jours. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou et le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, Joseph en Égypte. Que Jésus vous bénisse, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine. Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.